agriculteur.
Voici Zoom avec cette semaine le monde paysan par le grand bout de la lorgnette pour élargir le champ de la réflexion et de l'action. Une émission réalisée et présentée par Martine Calcinotto sur Bram FM 98.3 au cœur de la Corrèze. Chères auditrices et chers auditeurs, cette semaine, je vous amène dans un joli petit coin de paradis, un lieu de vie en permaculture, et je suis accueillie chez Emmanuel et Thibault. Emmanuel et Thibault sont membres actifs d'une association Chouette de Vie. Mais Chouette de Vie, c'est quoi ?
C'est une association qu'on a montée ensemble il y a 5 ans et qui avait un projet à la base au Togo, en Afrique de l'Ouest. Et du coup, on a évolué, on a avancé sur le montage d'un projet en France. Et du coup, d'où la création d'un écolieu, un centre d'expérimentation, de partage et de découverte de la permaculture.
Bon, alors on y va. Allez, on va découvrir tout ça. Alors, ça fait 6 mois là, que vous êtes sur place.
On a fait notre premier chantier participatif en octobre. Et du coup, on avait fabriqué dans un atelier avant la yourte. Et on a fabriqué aussi les toilettes sèches et puis le poêle de masse que vous allez voir à l'intérieur pendant ce chantier-là. Le week-end d'avant, on a fait la préparation et la mise en place des cultures, donc du potager, avec des planches de culture permanentes, donc avec différentes matières organiques et carbonées pour avoir des planches qui n'ont pas besoin d'être travaillées, où on n'a pas besoin de passer motoculteur ou quoi que ce soit, en fait.
On verra ça dans le détail tout à l'heure.
Ouais.
Bonjour. Bonjour. Donc, on a fait la connaissance avec Thibault.
Moi, c'est Emmanuel.
Donc, installé là depuis 6 mois. Comment vous avez trouvé le terrain ? Ça a été facile ?
On a pas mal cherché dans le sud-ouest avant de finalement trouver ce magnifique coin. Et puis, on a eu de la chance. On avait un prix qui était assez avantageux pour nous pour pouvoir s'installer. Et du coup, on est là.
C'est pas trop difficile d'installer une yourte ? Les autorisations, comment ça se passe ?
Alors nous, on a dû faire un permis de construire, donc on a un permis pour notre future maison et aussi pour la yourte. Parce que ça dépend, c'est très compliqué la législation vis-à-vis des habitats légers. Ça dépend de la mairie, de la direction départementale du territoire. Des fois, il y a des accords verbales, écrits, ou des fois, il faut un permis, ou des fois, on demande rien, on s'installe. Ça dépend, c'est selon comment on est à l'aise de le faire et comme la relation avec le voisinage et la mairie.
Ici, ça se passe bien avec la mairie ?
Oui, on les connaît un petit peu. Ils nous ont bien aidés pour notre permis. Ils ont été très agréables avec nous. Non, c'est chouette. C'est une très bonne mairie.
Je ne connaissais pas du tout ce petit lieu. C'est hyper sympa.
On a l'église qui est à 200 mètres à peu près du terrain. Les oiseaux qui chantent, beaucoup de prairies, des arbres.
C'était un vrai village ici avant. Il y avait une école, un presbytère, il y avait un petit commerce, un bal. C'était très animé, il y a une génération.
Peut-être que ça va revivre avec votre lieu d'échange et de partage. Merci.
Voilà, chez nous.
Ah ouais, mais c'est super grand. On n'a pas l'impression de l'extérieur que ce soit si grand, si spacieux.
Ouais, quand même.
50 mètres carrés.
Voilà, le dôme est à 4,50 m de hauteur quand même, donc on a une hauteur sous plafond. Enfin, vous sentez la chaleur qu'il fait à l'intérieur, c'est juste la chaleur du soleil en fait. Et l'isolation, c'est isolé en laine de mouton, donc on n'a vraiment pas froid l'hiver.
Pourquoi une yourte ?
Parce que c'était vraiment... c'était un choix d'abord pour la simplicité de montage. C'était monter rapidement. Il nous fallait peu de temps pour nous installer. Et aussi parce que c'est un habitat qui est respectueux de l'environnement aussi dans ses matériaux. La plupart des matériaux sont des matériaux naturels, à part la toile extérieure qui doit être imperméable. Voilà, donc c'était un choix. Puis l'habitat rond, ça nous plaisait aussi.
Voilà, donc tout est ouvert en fait.
Oui, il y a certaines personnes qui créent des cloisons, mais nous on trouvait ça dommage, ouais, de cloisonner un espace rond, voilà, avec la lumière, la façon dont la lumière descend depuis le dôme.
Votre vie d'avant, elle était comment?
Alors on a une vie un peu différente tous les deux, mais moi j'ai beaucoup vécu sur des fermes, des écolieux pendant 2-3 ans maximum. Et du coup, bah, j'ai vécu dans tout type d'habitat, dont une yourte, une maison en terre paille, une maison en pierre. Et on s'est retrouvé sur un parcours identique voilà, en essayant d'apprendre des choses sympas. Et du coup, voilà, on a décidé de s'installer ensemble.
Oui, moi en fait, avant je vivais au Québec. En fait, j'ai passé presque 10 ans au Québec. Et là, j'avais voulu rentrer, me rapprocher de ma famille. Donc j'étais de retour en France et voilà. Et ensuite, j'ai suivi un parcours un peu similaire à Thibault, en travaillant dans différentes fermes, en faisant du woofing finalement. Et voilà, c'est ça qui nous a donné l'inspiration pour créer ce lieu.
Et pourquoi la permaculture? Vous avez une raison bien particulière?
Alors, la permaculture, en fait, c'est quelque chose qui est très holistique, donc il prend en compte tous les aspects de la vie. Donc, en fait, c'est une méthode de conception de systèmes humains durables, donc de lieux de vie, de lieux d'échange humains durables. Donc, on touche à beaucoup d'aspects différents, dont l'habitat. Donc, c'est pour ça qu'on a une yourte et qu'on va construire une maison en terre paille, dont l'énergie. Donc la manière dont on se chauffe avec le poêle de masse que Manu a fabriqué. Enfin, l'eau, la gestion de l'eau, les animaux, l'agriculture bien sûr, la gouvernance, enfin, le travail en collectif. Donc nous on travaille pas mal sur ces aspects-là lors de nos chantiers et nos stages, sur la gouvernance partagée, l'intelligence collective. Donc bon, ça touche, c'est très holistique quoi.
Donc pour le montage de la yourte, justement, ça a été un collectif aussi.
Oui, alors on était 12 et pour tout le chantier, du coup il y avait des équipes qui se répartissaient sur différentes actions et donc ouais, c'était un chantier participatif. Donc c'était début octobre, c'est ça?
Au mois d'octobre, oui.
Voilà.
Donc la yourte, elle a été montée environ en 3 jours. En 3 jours, et voilà, on a passé du temps aussi sur le poêle à bois, qui est un poêle qui s'appelle un poêlito, où toutes les informations pour sa construction sont sur internet. Et l'idée, c'est un poêle qui est fait pour les habitats légers et qui va accumuler la chaleur. Il a à la fois une combustion très écologique et en même temps, il permet d'accumuler la chaleur et de la restituer progressivement. Donc on fait une chauffe le matin de 2 heures et une chauffe le soir pendant les jours d'hiver. Et on a plus de 20 degrés dans la yourte en permanence et on a consommé 1 stère de bois dans tout l'hiver.
Donc c'est du bois, c'est des bûches que vous y mettez à
Oui,
l'intérieur.
c'est des bûches coupées assez petites parce que de la conception de celui-là en particulier, c'est des petites bûches.
Alors ça c'est pour le chauffage, l'éclairage.
Alors pour le moment, bah, on est relié au réseau d'électricité. On est chez Enercoop, qui est un fournisseur
Oui,
d'électricité verte
relié,
et
oui.
coopératif. Et à l'avenir, on aimerait bien être autonome. Le problème, c'est qu'on a des pics de consommation. En ce moment, pendant les chantiers, étant donné qu'on utilise un petit peu d'électroportatif, et que du coup, les batteries, il faudrait vraiment beaucoup de batteries et beaucoup de panneaux pour notre installation, le début en fait. Et du coup, on attend un peu pour voir et mettre ça en place, mais attendre d'avoir passé ce pic-là, quoi, pour. Voilà.
Et puis la construction de la maison aussi. Alors, ce sera une maison comment? Une maison traditionnelle ou pas?
C'est une maison, c'est une technique de construction en terre et en paille avec une structure bois particulière qui s'appelle cellule sous tension. L'idée, c'est on va alléger la structure bois pour consommer moins de bois et on va utiliser cette structure pour compresser les bottes de paille en largeur et en hauteur, de façon à créer des murs très très solides. Donc la paille et le bois sont porteurs. Et ensuite, on va rajouter un enduit en terre, voilà, qui est composé aussi dedans, mais un peu d'herbe, un ferment, et qui va être très 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 solide et qui va apporter beaucoup de stabilité aussi à la construction. Moi, j'aurais aimé dire quelque chose sur les chantiers participatifs
Oui.
parce que c'est vraiment un choix qu'on a fait parce qu'on en a fait, nous, des chantiers participatifs. Même l'été dernier, on a construit une maison en terre paille pendant 3 semaines dans les Vosges. Et c'est vraiment des moments de convivialité, d'une énergie. C'est aussi se retrouver avec plein de gens qui savent finalement des fois pas faire grand-chose, ça dépend qui. Mais tout le monde est capable de faire quelque chose et on arrive à faire des choses, des grandes choses, en se mettant tous ensemble. Voilà, comme nous, bah, on a construit notre poêle sans avoir de compétences particulières, mais en s'y mettant à plusieurs, en réfléchissant. Il y a vraiment des choses extraordinaires qui se produisent. Et ça nous plaît beaucoup.
Chères auditrices et chers auditeurs, vous écoutez l'émission Zoom sur Bram FM 98.3 au cœur de la Corrèze.
Vous faites des économies en vivant de cette façon?
On voit qu'au niveau énergie, par rapport à la plupart des foyers, on consomme presque rien. En eau, on utilisait, avant d'avoir l'eau courante, qui est depuis même pas un mois, on utilisait 20 à 30 litres à deux par jour quand on prenait une douche. Donc quand on prenait pas de douche, on consommait moins de 20 litres. Donc voilà, on a vraiment un mode de vie qui fait que bah on n'a pas besoin de grand-chose en fait. Et après, pour le moment, voilà, les cultures sont pas encore complètement lancées, donc on n'a produit pas encore notre nourriture nous-mêmes. Mais ici, beaucoup de producteurs bio qui sont très chouettes, qui font de belles choses, et du coup, on va chez eux pour manger pour le moment, avant d'avoir notre propre production en fait.
Alors, vous vivez de quoi?
Bah, pour l'instant, on est en création d'activité. Notre projet, c'est justement de, disons que la partie financière, que ce soit plus apportée par tout ce qui est stage, formation, les formations qu'on organise, etc. Et puis, on reste ouvert à différentes possibilités pour la suite. Voilà, on ne sait pas exactement pour l'instant. Vers quoi on va se tourner, mais on s'intéresse à plein de choses, donc
Parce que là, vous produisez pour vous, mais le but est, ce serait peut-être aussi de pouvoir vendre sur les marchés.
pour le moment, la production, on la destine plus à l'autonomie des stagiaires et des gens qui viennent en chantier chez nous.
L'idée, c'est aussi de développer notre autonomie, de réduire nos besoins, de commencer par là, réduire nos besoins et arriver à faire le maximum de choses nous-mêmes.
Permaculture, on parle beaucoup, on parle pas mal de la loi des 4 R, qui est refuser, réduire, réutiliser et recycler. Mais recycler, ça vient vraiment à la toute fin. D'abord, tout ce qu'on peut refuser, on le refuse. Tout ce qu'on peut réutiliser d'une certaine manière, donc nous, on fait beaucoup appel à des recycleries. Le poêle, il y avait un bidon de 200 litres, et dedans il y a un plus petit bidon de 60 litres. La plaque en métal en dessous, on l'a récupérée. Enfin voilà, on essaye de réutiliser les matériaux pour les valoriser. Et après, des fois, on achète, voilà, quand on n'a pas le choix. Et puis, ce qu'on achète et qui est mort, on l'emmène au recyclage si on ne peut pas le réutiliser d'une certaine manière, quoi.
Restez avec moi puisque nous allons retrouver Chouette de Vie avec Emmanuel et Thibault de l'association Chouette de Vie qui m'ont invité à visiter leur yourte mais également toute leur installation autour de la permaculture. Mais en fait, la permaculture, qu'est-ce que c'est?
Alors la permaculture, c'est ça, c'est simple, c'est s'inspirer de la nature pour concevoir. Donc la nature, elle ne produit pas de déchets, elle crée des habitats pour tout le monde. Elle est hyper productive. Si par exemple on laisse un terrain en friche ou alors on fait un champ cultivé, et en calories produites, on a 367 calories produites par la nature en injectant rien du tout. Alors que nous, on est dans une agriculture et un mode de vie où généralement on injecte 12 calories pour en produire une. Donc en fait, on est sur un rapport énergétique qui est négatif. Et l'objectif de la permaculture, de manière holistique, donc sur l'habitat, etc., c'est de concevoir tout en pensant aux générations futures et à que ce qu'on va concevoir utilisera moins de calories, donc on aura dépensé moins d'énergie que ça va nous apporter après. Donc en fait, c'est ça. Et ça se schématise par une méthode de conception qui est régie par des principes qui sont prendre soin de la terre, prendre soin des humains en général et partage équitable des ressources. Ça c'est les trois piliers. Et après, il y a une douzaine de principes qu'on pourra essayer de citer au fur et à mesure de notre discussion.
Concrètement, si moi je désire, si je souhaite faire de la permaculture, voilà, si j'ai un champ, si je veux cultiver des tomates, je m'y prends comment?
Alors, l'observation, observer. Déjà, le sol témoigne concrètement de ce qu'il a besoin et de ce qu'il est en train de faire. La nature va toujours vers ce qu'on appelle le stade climax, qui est en gros la forêt très dense. Bah, dans la nature, si on regarde son sol, on va voir des plantes qui poussent de toute manière. Sauf si le sol a déjà été labouré, et dans ce cas-là, on verra pas grand-chose. Mais si il est, si c'est une friche ou un champ, et ben on va voir ce qui pousse. Et selon ce qui pousse, et ben en fait les plantes, il y a beaucoup de plantes qui sont bio-indicatrices, donc qui vont indiquer quelle est la nature de notre sol. Par exemple, le chardon. Le chardon, on l'aime pas beaucoup cette plante. C'est une plante que peu de gens aiment. Mais en fait, c'est une plante qui a une racine qui va très profond et qui va remonter le phosphore qu'on vend en engrais hein, maintenant pour mettre dans les champs, et qui va le remonter et le rendre disponible et assimilable directement pour les plantes. Et du coup, bah, on va regarder qu'est-ce qui se passe pour choisir bah, qu'est-ce qu'on va plutôt enlever et qu'est-ce qu'on va soit aménager pour que ça pousse différemment et qu'est-ce qu'on va planter et où et comment. Déjà, l'observation, c'est vraiment le plus important.
N'importe qui ne peut pas s'improviser dans la permaculture.
Ben en fait, je pense que c'est important de préciser que la permaculture, on en a beaucoup parlé autour de tout ce qui était maraîchage, jardinage, mais qu'en fait, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus général et que c'est vraiment une méthode de conception éthique de lieu et de façon de société. En fait, ça, c'est très très large et c'est vraiment basé sur un fondement éthique. Profondément égalitaire, donc c'est le partage équitable, c'est un des trois piliers, et le prendre soin de l'humain, c'est un deuxième pilier sur les trois. Donc il y a une chose, enfin voilà, c'est important de le savoir. Et justement, dans les principes de permaculture et dans la philosophie de la permaculture, tout le monde peut faire de la permaculture en fait. À partir du moment où on a compris ce que c'était et ce que ça impliquait, l'idée c'est aussi donc d'observer, mais d'essayer. Et dans les principes, c'est observer et ensuite de réajuster en fonction de ce qu'on observe après être intervenu sur le milieu. Donc, il faut commencer, essayer des choses. Il n'y a pas de recette miracle. Nous, par exemple, ici, on a fait des buttes de culture où on a mis une couche de bois, une couche de terre, du fumier, encore de la terre et on a couvert de foin. Mais en Afrique, par exemple, on n'aurait pas fait des buttes sur un sol sablonneux, un endroit très sec. On aurait plutôt fait des creux pour retenir l'eau de cette façon-là. L'idée, c'est pas de, il n'y a pas des techniques qui vont fonctionner pour tout le monde. Ça dépendra vraiment du terrain, de la terre, de plein plein d'éléments.
Dans le choix du terrain, vous avez inspecté, regardé un petit peu les plantes qu'il y avait. Ça a été déterminant pour le choix ou pas?
Un petit peu, alors on a vu que bah, il y avait du sur-hyelpe qui témoigne d'un bon sol, on a vu qu'il y avait de l'ortie, on cherchait surtout un terrain avec de l'eau, donc il y a une source qui coule sur le terrain et qui sort dans la mare au bout, donc on pourra capter à l'avenir pour notre utilisation. On cherchait un terrain en pente aussi pour avoir une gestion de l'eau qui est holistique, donc avec différents aménagements pour retenir, stocker, retenir, infiltrer et éparpiller l'eau. Il y a plein de manières de faire, enfin plein de petites techniques, mais tout ça s'inscrit dans justement un design qui est global et qui prend en compte différents facteurs. Puis, sur ce terrain, ouais, il correspondait clairement à ce qu'on cherchait.
Ouais, c'était une ancienne prairie fauchée, je crois, 2 fois par an. Donc, forcément, on le voit là, il y a toute une partie de la prairie qui est couverte de fleurs. Voilà, c'est une prairie qui est restée très sauvage. Donc, il y a quand même beaucoup de plantes diverses. Et voilà, nous, c'est sûr qu'au niveau de la vie du sol, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment d'activer la vie du sol, de ramener de la vie dans les lieux, quoi. De la biodiversité, voilà, un sol avec des vers de terre, plein d'insectes. On les veut, les insectes.
Agriculteur, agriculteur, agriculteur.
C'était l'émission Zoom avec cette semaine le monde paysan par le grand bout de la lorgnette pour élargir le champ de la réflexion et de l'action. Sur Bram FM, tous les mercredis à 9h30, les vendredis à 14h et bien sûr en podcast sur bramfm.com. À bientôt.